Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Carnet de région, votre magazine d'actualité régionale produit par les radios associatives non commerciales de l'ex-Languedoc-Roussillon, nouvellement Occitanie, et c'est 48 FM qui en prend la rédaction en chef pour ce mois de novembre. Au sommaire de ce carnet de région, la 8e édition de l'automne palestinien portée avec constance par l'association France-Palestine à Les Cévennes, une manifestation culturelle et artistique mise en lumière par Yves Defago de Radio Grille Ouverte. L'histoire a fait polémique dernièrement. Dans la petite commune héraultaise de Saint-Bosile-de-Putois, le maire a posé sa démission voulant protester contre l'arrivée de migrants. Pourtant, la solidarité existe bel et bien à Saint-Bosile-de-Putois et s'organise. C'est ce que va nous expliquer Siam Mineur de Radio Escapade. On parlera littérature dans ce carnet de région avec un livre sur l'association SOS Amitié, un sujet d'Élodie Chazé de Radio Aviva. En Lozère, le syndicat agricole majoritaire de la FDSEA tenait son congrès annuel avec la participation de la vice-présidente de la Fédération nationale, Christiane Lambert, qui, à contre-courant de ses homologues lozériens, est plutôt optimiste sur l'avenir de l'agriculture. Enfin, quel Montpelliérain n'est pas allé au Rockstore dans cet antre mythique écouter un concert ou finir sa nuit à coups de tequila paf? Nous reviendrons sur les 30 ans du Rockstore avec Radio FM+.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
C'est cette semaine que débute la 8e édition de l'automne palestinien portée par l'association France-Palestine à Les Cévennes, une manifestation culturelle et artistique qui, durant tout le mois de novembre, s'attachera à mettre en avant la vitalité du peuple palestinien et de ses légitimes revendications à obtenir la reconnaissance de tous ses droits, dont la création de son État. La date de cette manifestation ne doit rien au hasard, comme l'explique au micro de Radio Grille Ouverte l'une des coprésidentes de l'association alésienne, Françoise Leblon.
Nous avons choisi la date de faire un automne palestinien plutôt qu'un printemps qui aurait été plus gai à cause de la date du 29 novembre 1947 qui est la date anniversaire du plan de partage de la Palestine pour rappeler que depuis 1947 le problème n'est absolument pas réglé et que la population, les Palestiniens vivent sous occupation, qu'une bonne partie de la population palestinienne a dû quitter ses terres, ses maisons, qu'ils n'ont pas pu retourner chez eux et que ce qui reste de la Palestine est sous occupation totale par l'armée israélienne.
Cette année, vous avez souhaité faire un focus sur Gaza. Pourquoi Gaza ?
Gaza est sous occupation selon les termes de la loi internationale, puisque Israël boucle la terre, ils sont enfermés par une clôture, par mer et par voie aérienne aussi. Donc Gaza est sous blocus total depuis 2006. Pour une population de 2 millions d'habitants, enfermée sur 360 km², la vie devient impossible, d'autant que au cours de ces 10 années, il y a eu plusieurs offensives israéliennes contre la population de Gaza, la dernière remontant à 2014, et que les reconstructions promises n'ont pas eu lieu. Les États qui s'étaient engagés à donner de l'argent pour la reconstruction, pour la plupart, n'ont pas honoré leur engagement. Et par ailleurs, pour ceux qui ont versé cet argent, tout de même, l'État israélien empêche la plupart des matériaux d'entrer dans Gaza.
Françoise Leblon, que peut faire une association comme la vôtre pour la Palestine, au-delà de la sensibilisation ici ?
C'est un travail important, le travail de sensibilisation, d'information auprès de la population, mais nous voulons aussi toucher absolument les élus. Nous avons, nous, groupe local, nous avons un projet absolument concret qui est l'aide aux dispensaires d'Abou Shredem en Cisjordanie occupée.
Et parmi les temps forts de ce 8e automne palestinien, on peut noter, parmi de nombreux rendez-vous, ce vendredi 4 novembre, une rencontre à la médiathèque d'Alès avec Christiane Hessel et Leïla Chaïd, ancienne ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne, et un concert de solidarité donné le 18 novembre par Moussé Hakim, de musiciens de Zebda, dans la petite commune des Mages. Un sujet proposé par Yves Defago, de Radio Grille Ouverte. L'arrivée d'exilés en provenance de la jungle de Calais a fait polémique dans la commune héraultaise de Saint-Bosile-de-Putois. Après d'âpres négociations entre la mairie et la préfecture, 43 exilés sont arrivés et la solidarité s'organise. Un sujet de Radio Escapade, un reportage de Siam Mineur réalisé par Pierre Isnard-Dupuis.
La préfecture annonçait la venue de 87 personnes au centre d'accueil et d'orientation installé au centre de vacances des Lutins-Sévenols. Dénonçant le manque d'informations de la part de la préfecture, le maire Michel Isser affichait le message « 87 migrants sans concertation, c'est trop ». Après une réunion publique agitée le 19 octobre au cours de laquelle 500 habitants ont exprimé leur peur en éructant sur le préfet Pierre Pouessel, après que le maire et le conseil municipal ont menacé de démissionner, la préfecture et la mairie sont finalement parvenus à un accord sur un effectif moitié moindre et pour que le centre d'accueil et d'orientation ferme au plus tard en juin 2017. Jeudi 27 novembre, ce sont 43 personnes, principalement de nationalité soudanaise, qui ont été accueillies. Philippe Nouchot, sous-préfet de l'Hérault pour l'accueil des migrants.
On a reçu 43 personnes. Sur les 43 personnes, donc 41 sont d'origine soudanaise, de nationalité soudanaise. Une personne est érythréenne. Et une autre personne pakistanaise. Ce sont tous des jeunes qui ont la majorité, puisque les mineurs sont pris en charge dans un dispositif spécifique, avec un encadrement renforcé. Donc ils ont plus de 18 ans et ils ont en gros entre 18 et 35 ans. Voilà. Ils ont tous évidemment des parcours de vie difficiles. Ils viennent soit du Darfour, soit du Sud-Soudan, hein, qui sont des régions qui depuis 2002 connaissent des situations de crise majeures. D'abord des situations de guerre, ensuite des situations de guerre civile larvée. Donc ils ont connu des choses très très dures. Hein. On conçoit aussi le temps qu'ils vont passer ici comme un temps de répit. Parce que Calais, certes c'était sans doute moins dur que le Darfour, mais c'était quand même aussi une situation assez extrême, qui était particulièrement indécente sur le plan humain. Ils vivaient au milieu des rats, des immondices, etc. Donc on leur redonne un temps où ils vont pouvoir se poser, respirer, se soigner et dans le même temps engager les procédures administratives.
Le maire de Saint-Bosile-de-Putois, Michel Isser, affiche sa volonté de coordonner la solidarité par l'action du Centre communal d'action sociale. Il souhaite une bonne intégration.
Ces jeunes gens, pour la plupart jeunes gens, qui ne sont pas enfermés, c'est ce qu'on a insisté, ce n'est pas un ghetto ici, qui ne sont pas enfermés, vont se déplacer dans le village. Mais il convient que se déplaçant dans le village, les éducateurs du centre leur expliquent quelles sont les coutumes, les habitudes et les traditions de notre village, pour que entre la population et eux, bien que nous connaissions leurs origines maintenant soudanaises, il n'y ait pas de difficultés particulières, étant précisé bien entendu que les pays d'où ils viennent, et nous en sommes parfaitement conscients, n'ont pas les mêmes coutumes et habitudes que le nôtre.
Un collectif de bénévoles se constitue pour accompagner les hommes accueillis à Saint-Bosile. Une bonne centaine de personnes donnent ainsi de son temps pour des cours de français, recevoir et trier les dons de vêtements, créer du lien avec les exilés. Un engagement indispensable pour garantir un bon accueil. Noureddine est arabophone, il assure bénévolement la traduction.
J'ai proposé mon aide au centre d'accueil pour les formalités administratives. Je confirme leur nom, leur prénom, leur adresse, leur pays d'origine et leur souhait de rester ou pas en France. Et s'ils souhaitent rester en France, est-ce qu'ils ont besoin de poser une demande d'asile? Donc s'ils proposent cette demande-là, donc l'équipe administrative se chargera de suivi d'accompagnement de ces personnes.
Et jusqu'à présent, est-ce que sur les cadres que tu as vus, est-ce qu'ils veulent tous rester en France?
Parmi les trois d'abord que j'ai interviewés, il n'y a que deux qui souhaitent poser une demande d'asile politique. L'autre personne souhaite rejoindre l'Angleterre pour l'instant. Okay. Et il a besoin de quelques temps de réflexion pour savoir exactement s'il pourrait rester ici ou pas.
Carnet de région.
Hérault.
Aude,
Gare,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère,
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Qui n'a pas entendu parler de SOS Amitié? La plupart des Français connaissent cette association au moins de nom, mais moins de 10% d'entre eux connaissent son action. Fort de ce constat, cette institution qui existe pourtant depuis plus de 50 ans sort un livre intitulé « Sortir du silence, l'écoute à SOS Amitié » écrit par un collectif. Jean-Noël Pintard, le président de SOS Amitié Montpellier, nous en parle.
Ce collectif, c'est un ensemble de personnes qui sont des personnes engagées dans les sociétés d'amitié au niveau national, fédéral, qui ont de l'expérience de l'écoute et des sociétés d'amitié, de l'expérience de l'organisation de les sociétés d'amitié, et qui ont voulu faire partager, à travers ce livre, l'essentiel des pratiques de les sociétés d'amitié, et qui a voulu les faire partager à l'ensemble des personnes intéressées par l'écoute en France.
Cette association vient en aide à ceux qui ressentent le besoin de parler, de communiquer, ceux qui se sentent seuls, ceux qui sont envahis par un mal-être. Jean-Noël Pintard nous en dit plus.
C'est une association qui écoute les personnes en difficulté 24 heures sur 24, 365 jours par an, et de trois manières. La première, qui est depuis les origines, c'est le téléphone. Et là, c'est bien 24 heures sur 24. Et puis on écoute également par messagerie, par courriel, où on répond aux messages au bout de 24 heures à peu
près. C'est plus récent.
Ça, c'est plus récent. Et également, en même temps, on a créé les réponses par chat, c'est-à-dire une écoute par écrit, mais en direct.
Et SOS Amitié regroupe plus de 1600 bénévoles au niveau national et 40 à Montpellier. C'est le dispositif de bénévoles le plus important dans la prévention du suicide. Ce livre, composé d'une dizaine de chapitres, revient sur l'histoire de cette association, son organisation en interne et les différentes facettes de ce service d'aide. Agriculture maintenant, avec la FDSEA de la Lozère qui vient de tenir son congrès annuel. Un congrès auquel a assisté Christiane Lambert, productrice porcine dans la Maine-et-Loire et première vice-présidente de la FNSEA. Christiane Lambert qui, contrairement à la morosité ambiante qui gagne le milieu agricole, veut, elle, rester optimiste.
La Lozère est un département qui a maintenant dû plus qu'ailleurs son nombre d'agriculteurs. Il y a ici une vraie dynamique. Il faut dire que quand on est dans un département de 70 000 habitants, si on veut vivre et travailler au pays, il faut travailler dans l'agriculture. Et je vois des agriculteurs qui s'accrochent vraiment. L'augmentation des aides politique montagne, compensation des handicaps, a été un atout. C'est près de 5 millions d'euros qui sont revenus dans le département. Il y a par ailleurs des démarches commerciales pour valoriser mieux les produits, soit dans des filières longues, soit dans des filières courtes. Il y a des recherches de diversification qui sont également porteuses. Donc, comme toujours, les agriculteurs de montagne s'accrochent et inventent des solutions que seuls eux peuvent imaginer sur leur territoire. En tout cas, moi, je suis très admirative de la façon dont ils conduisent le travail ici, avec aussi un gros travail qui a été fait sur les cours d'eau pour éviter que les environnementalistes classent en cours d'eau n'importe quel fossé et mettent des conditions trop compliquées d'exploitation des foins, notamment de certaines prairies. Écoutez, les pessimistes sont légion dans notre pays, mais les gens ont plutôt envie de suivre des gens qui expriment un cap et une vision. Nous savons, nous, qu'il y a une demande alimentaire en France, en Europe et dans le monde qui va crescendo, qu'il y a une demande de territoire aménagé, une demande de production d'environnement, de qualité. Tout ceci, nous savons le faire. Il y a une mauvaise passe, à nous de trouver les solutions pour restaurer la confiance d'une part et des meilleurs cours aussi. Nous y travaillons notamment avec la dynamique cœur de gamme en viande bovine pour les races allaitantes qui commencent à produire quelques résultats.
Enfin, à l'occasion des 30 ans du Rockstore, FM Plus 91 FM à Montpellier a rencontré la fille du fondateur du Rockstore, Charlotte Winling, pour l'exposition Rock Stories au Centre d'art de la Fenêtre, 27 rue Frédéric Payson à Montpellier.
Le Rockstore fête ses 30 ans. Du 19 octobre au 19 novembre 2016. Au-delà de la programmation exceptionnelle de concerts, Charlotte Winling, la fille du fondateur du Rockstore, Philippe Winling, expose les œuvres de quatre photographes. Quatre photographes fidèles du Rockstore, quatre photographes qui ont immortalisé ces artistes sur la scène du Rockstore. On y trouve des photos de Tony Iacoponelli, Eric Catarina, Laurent Villarem et Eric Morer. Une exposition du 29 octobre au 19 novembre 2016 au Centre d'art La Fenêtre, 27 rue Frédéric Payson à Montpellier. Un entretien avec Charlotte Winling.
Charlotte Winling, vous êtes commissaire d'exposition de cette exposition et c'est une exposition qui n'était sûrement pas facile à réaliser.
Oui, tout à fait. C'est une exposition qui est organisée avant tout par le Rockstore, en partenariat avec la Fenêtre qui nous accueille, qui a énormément participé aussi dans l'élaboration de cette exposition. En effet, pas facile parce que représenter 30 ans dans une exposition, il a fallu faire des choix. On a eu envie de mettre en avant avant tout des photographes. Donc on a sélectionné quatre photographes qui ont participé à l'histoire et au rayonnement aussi du Rock Store.
Est-ce que c'était quatre photographes particulièrement actifs dans l'histoire ou est-ce que vous avez dû faire un choix important ?
Ces photographes nous permettaient de retracer les 30 ans. Il y en a qui étaient plutôt présents dans les débuts, comme Eric Catarina et Tony Jacoponelli, qui est malheureusement décédé. Et par contre, Laurent Villarem et Eric Maurer étaient plutôt à partir des années 2000. Donc ça nous permettait vraiment d'avoir un panel, disons, de clichés pour retracer ces 30 ans de vie.
Parmi tous ces artistes, y en a-t-il que, évidemment, vous avez connu ou peu ?
Il y en a bien sûr certains que j'ai connus. Alors, dans les années 90, j'étais petite, donc en effet, j'ai pas participé à ces concerts-là. Mais pour certains, ce sont des grands artistes comme Radiohead, voilà, qui du coup sont des personnes, sont des artistes très connus et que je connais bien entendu. Hein.
Savez-vous comment s'est procédé le choix de tous ces artistes pendant toutes ces années ? C'était au feeling ? C'était... Comment se passait le choix de ces groupes ?
Alors, pour le choix, on a souhaité avoir différentes scènes sur les photographies. Bien entendu, des portraits d'artistes musiciens sur scène. Mais pas que, on voulait aussi qu'il y ait des portraits du public. Voilà, quand même assez important. Et aussi des portraits, par exemple, d'artistes dans les backstage, dans les loges, de moments qui ne sont pas, voilà, que certaines personnes ne connaissent pas du tout, qu'on a voulu montrer aussi au public.
Cette exposition fait aussi l'objet d'un ouvrage et qui comporte aussi une histoire. Par qui a-t-elle été écrite ?
Alors, l'histoire du Rock Store, eh bien, c'est mon père, hein, qui en est avant tout à l'origine, Philippe Winling, qui est un des fondateurs du Rock Store. Et cette exposition, on lui rend hommage, voilà, on la lui dédie, car il est décédé, il y a presque un peu plus de 2 ans maintenant. Donc, c'est aussi une manière pour nous et pour l'équipe du Rock Store voilà, de lui rendre un hommage à travers cette exposition, à la fois de photos, mais pas que. On y voit de la vidéo, il y a également des ambiances sonores et une partie archive avec de la documentation.
Mais j'évoquais aussi surtout le livre qui est publié, qui est d'une richesse qui vient compléter toutes ces photos. Et ces deux rédacteurs-là, étaient-ils des amis de Philippe Winling ?
Oui, bien sûr. Donc, le livre qui a été écrit pour les 25 ans, hein, voilà. Donc, avec Jérémy Bernet et Eric Delay, qui sont journalistes, hein, et qui sont bien entendu des amis proches du Rock Store. C'est pour ça qu'ils ont eu cette envie-là pour les 25 ans de faire un beau cadeau, hein, qui était cette édition.
Merci beaucoup, Charlotte Winling.
Et l'exposition est donc visible jusqu'au 19 novembre. Voilà, c'est tout pour ce carnet de région. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.